Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et comme tous les jeudis à 20h30, nous allons parler d'écologie, d'environnement, de développement durable, d'herbes vertes, de grains de maïs non torturés, d'animaux en bonne santé, bref, de sujets frais et passionnants. Et tout particulièrement aujourd'hui, puisque nous allons parler de l'eau. Et pour parler de l'eau, messieurs, dames, nous accueillons un fou. Oui, messieurs, dames, un authentique fou. En tout cas, c'est comme ça que André Santini nomme notre invité Jean-Luc Touly. Nous avons donc des invités, des reportages, des interviews, des nouvelles rubriques et même de la musique en live. Vous allez apprendre, vous allez comprendre, vous énerver, vous distraire. Bref, vous n'allez pas nous ennuyer. Vous ennuyez, je suis Alexandre et je suis avec Delphine et Sophie, mes deux animatrices préférées. Bonjour aux grands et aux petits qui nous écoutent, même s'ils devraient déjà être couchés. Mais bon, ce n'est pas tous les jours que papa passe à la radio. Zoom Écologie, c'est parti. Normalement, il y a un jingle.
Alors, c'est pas tout à fait parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30. Sur Fréquence Paris Pluriel. 106.3.
Alors, au sommaire de cette émission, nous interviewerons Jean-Luc Touly. Donc, il s'agira de parler de la gestion de l'eau en France et de faire un petit retour sur le reportage de Water Makes Money, un film qui est sorti au mois de septembre. Nous accueillerons Ellie Guillou pour les plages musicales. Nous ferons un tour du côté de Sollicité, notre focus association du mois. Nous parlerons de l'agenda écolo, du geste écologique du mois. Et nous attaquons avec l'interview de Jean-Luc Touly.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Sophie, bonjour Delphine, bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Tout va bien, on est bien installé.
Le jingle est parti.
Le jingle est parti. Bon, c'était un petit peu rapide de s'installer juste après l'émission précédente. Bon voilà, aujourd'hui donc, on va parler de l'eau et notamment de la gestion publique de l'eau. Donc vous verrez, c'est un sujet passionnant. Et donc on accueille Jean-Luc Touly. Donc bonjour Jean-Luc.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc Jean-Luc, j'ai une petite bio sur vous, là, un très très dossier, très épais dossier. Donc en fait, vous avez été embauché à la vous venez de la Générale des Eaux, au départ, embauché en 76.
Absolument.
Et puis vous avez très vite été délégué syndical CGT, la Générale des Eaux qui s'appelle aujourd'hui Veolia. Bon, ces années de pratique vous ont amené à commencer à observer des pratiques un petit peu suspectes, disons, entre les pouvoirs publics, les syndicats, les multinationales de l'eau. Et vous avez décidé de faire paraître un livre qui s'intitulait « L'eau de Vivendi, les vérités inavouables » qui est paru en 2003. Et juste après, un deuxième livre, « L'argent noir des syndicats ». On aura l'occasion d'en parler un petit peu, ce qui vous a valu évidemment un licenciement, en tout cas un procès, un licenciement et donc un procès.
Quatre procès même.
Quatre procès. Et puis vous avez finalement réintégré Veolia en septembre.
Réintégré parce que la justice l'a décidé, la Cour d'appel administrative de Paris l'a décidé au mois de juillet. Grande surprise, après presque 5 ans de licenciement, retrouver son ex-entreprise dont on ne partage pas grand-chose, c'est assez invraisemblable.
Vous n'avez pas versé une petite larme à ce moment-là ?
Non, je n'ai pas versé de larmes du tout, mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que moi, j'ai demandé à partir tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois la victoire, je dis, bon, ça ne sert à rien de rester, puisque je suis conseiller régional, je fais partie de la fondation de Mme Mitterrand, et on se bat contre ces entreprises, en particulier Veolia. Et donc, j'ai demandé à partir par un licenciement transactionnel, en demandant simplement mes indemnités d'ancienneté, donc pas du tout d'argent en dehors de mes 30 ans d'activité. Et à ma grande surprise, ils ont refusé, en disant « Non, non, on préfère vous réintégrer. Par contre, on ira devant le Conseil d'État parce qu'on voudrait vous faire vraiment licencier pour la deuxième fois. »
D'accord.
Et donc ça, c'est une histoire qui peut durer encore au moins 3 ans.
Ah, c'est pas pour vous garder un peu sous la main et puis pour vous...
Non, je crois pas, parce que de toute façon, j'y suis pas beaucoup. Hein, j'ai comme fonction l'entretien des fontaines, des 166 fontaines de la ville de Paris, de la rive droite.
Bon, donc pour l'instant... Il y a du boulot ?
Il y a du boulot, mais le problème, c'est que du fait de mes fonctions syndicales, mes fonctions au prud'homme, mes fonctions au conseil régional, je suis capitaine dans cette entreprise. Donc, si vous voulez, avec tout ça... J'y suis pas beaucoup.
D'accord.
Hein, donc, ça ressemble un peu à l'emploi fictif, hein, comme dirait l'autre. Mais quand je n'y suis pas, en tout cas au titre du conseiller régional, je ne suis pas payé. Mais il me laisse partir.
D'accord.
Mais je trouve que c'est ridicule, parce que, vu mes responsabilités, je suis notamment le seul représentant de la région à l'Agence de l'eau, qui est présidée donc, par l'inénarrable M. Santini et co-présidée par le président de Veolia.
D'accord.
Mais comment vous êtes retrouvé là alors ?
Un petit peu mes activités syndicales dans un premier temps, et surtout des livres. Et ma rencontre avec Madame Mitterrand a fait qu'à un moment, j'ai adhéré chez Les Verts, parce que c'est les seuls qui m'ont défendu depuis le départ dans cette affaire-là. Et je partageais donc une grande partie de ce qu'il disait. Et puis voilà, bon, mais j'étais un simple militant de base, quoi. Hein. Et puis, y a eu les élections municipales où je me suis retrouvé dans une liste en tant que représentant vert, une liste de gauche, enfin extrêmement élargie, même avec des gens un peu de droite. Et puis j'ai été élu. Donc ça, c'était mon premier mandat. J'ai été élu maire, ensuite désigné maire adjoint.
C'était en quelle année, ça?
C'était en 2008, hein, donc c'est assez récent. Et puis en mars 2008. Et puis au bout de deux mois, mon maire m'a retiré toutes mes délégations à cause, justement, de Veolia, puisque, évidemment, le contrat venait à échéance et que je me battais contre. Bon, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais donc mes délégations étaient retirées. À ce moment-là, Jean-Vincent Plaisé, Cécile Duflot et un certain nombre d'autres personnes, dans le cadre des européennes, m'ont demandé d'être sur la liste des européennes. Donc j'étais en 17e position en région Île-de-France. Mais j'ai participé à 4 ou 5 débats sur les problèmes de lutte contre la corruption, hein, l'éthique, avec Eva Joly. Et puis, donc évidemment, je n'ai pas été élu. Et puis, j'ai commencé à écrire un livre, le dernier livre qui s'appelle « Europe, écologie, miracle ou mirage ». Et ça a été un miracle que cette organisation politique m'a proposé d'être sur la liste donc, d'Europe écologie en Île-de-France, au premier tour, en position éligible, au deuxième tour, de nouveau en position éligible et élu. D'accord. Et donc, une fois que vous êtes élu, il y a des responsabilités. Ça va dans les lycées, l'aménagement du territoire, la culture, l'éducation. Enfin, il y a tout un tas de compétences. Évidemment, ma compétence était quand même plutôt la lutte contre la corruption et la question de l'eau. Alors, la compétence en matière d'eau est assez faible, mais en matière d'assainissement est importante. Bon. Et il y a l'agence de l'eau, parce que c'est forcément un membre du conseil régional qui représente la région. Il n'y en a qu'un dans le comité de bassin de l'agence de l'eau, le Parlement.
Voilà. D'accord.
Et une fois que vous y êtes, vous êtes automatiquement membre du comité national de l'eau, qui est la plus grande instance de l'eau en France, qui est co-présidée par le rapporteur sur l'eau et Mme Joanneau. Mais avec le président, le PDG de Veolia, le PDG de Suez, enfin, vous voyez, de nouveau, je les ai en face de moi, mais pas du même côté, parce que là, maintenant, je suis du côté politique.
D'accord.
Mais mon combat associatif est quand même celui par lequel je suis arrivé. Donc je ne l'oublie pas, je suis d'abord un associatif.
D'accord.
Donc voilà.
Juste pour resituer un tout petit peu le débat, pour voir de quoi on va parler. En fait, aujourd'hui, on va parler un peu de la gestion publique de l'eau. Parce que notamment, je crois que c'est en 2010 ou en 2009, la gestion de l'eau à Paris a été remunicipalisée.
Remunicipalisée. 1er janvier 2010. Là.
1er janvier 2010, donc c'est tout récent. Ça veut dire, en gros, qu'elle est de nouveau gérée par la ville et par la municipalité, alors qu'elle a été pendant des années gérée par des entreprises privées, notamment Veolia et Suez.
Veolia pour la partie nord, Suez pour la partie pendant 25 ans.
Il faut expliquer que l'eau en France, c'est un marché qui représente combien de millions d'euros, l'eau en France ?
Ah, c'est pas des millions, là, c'est des milliards.
C'est des milliards d'euros.
C'est le marché de l'eau en France, pas uniquement pour le privé, hein, c'est à peu près 12 ou 13 milliards d'euros, dont le privé à 6 ou 7 milliards.
D'accord.
Hein, qui lui revient.
Hein. D'accord, voilà.
Mais 80% des usagers français, et en particulier franciliens, sont sous la coupe de Veolia et le Suez. Il y en a une troisième qui est un peu plus petite, qui s'appelle la SOR, qui a été longtemps dirigée par Bouygues, puis ensuite qui a été revendue à des fonds de pension, ensuite à la Caisse des dépôts, et maintenant à un groupe de déchets. Donc l'eau, les déchets, c'est extrêmement voisin. Et donc, qui s'appelle Séchés Environnement, qui se trouve dans le sud.
D'accord.
Mais de très très loin en France, c'est Veolia qui a environ 55% du marché français de l'eau, 30% à la Lyonnaise des eaux Suez, et 15% à peu près donc, à la SOR. Le reste, environ quelques tout petits pourcents, c'est les régies.
Ça n'a pas tellement évolué dans les 20 dernières années,
non.
Finalement.
Non, on peut dire que depuis, en gros, oui, 15-20 ans, ça ne bouge pas. Alors, ça bouge à la marge parce que, du fait de la loi Chevènement de 1999 qui permet aux communes de se regrouper dans les intercommunalités qui s'appellent les communautés d'agglomération, communautés de communes, si vous voulez, souvent la grosse commune qui est en délégation prend des petites communes qui risquent d'être en régie. Et donc, voilà. Mais tout ça, c'est epsilon parce qu'on a aussi l'effet balancier dans l'autre sens. Parce que depuis un certain temps, en Île-de-France et en France de manière générale, les communes commencent à revenir en régie.
Oui, on va y venir.
Petites ou des grandes.
Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien essayer de comprendre, c'est pourquoi il y a une lutte publique-privée sur ce secteur-là. Parce que vous vous battez, en fait, depuis des années pour cette remunicipalisation. C'est-à-dire que pour que le service public reprenne sa gestion de l'eau, vous vous battez pour vous dénoncez notamment l'augmentation des prix de l'eau, de la baisse de la qualité, des gâchis importants liés à la dégradation des infrastructures, etc. Donc, il y a un vrai combat que vous semblez... pas gagné, mais enfin, vous marquez des points en ce moment. C'est quoi finalement l'enjeu de ce combat et pourquoi, quel est l'intérêt d'avoir une gestion publique par rapport à une gestion privée? Je crois j'aimerais juste qu'on resitue très clairement le débat pour que ce soit très clair pour nos auditeurs, parce que c'est un débat très important. Et voilà, qu'on soit très clair. Où sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là?
Alors, il y a deux types d'enjeux. Il y a le principe de dire l'eau, c'est la vie, c'est un bien commun, donc on ne doit pas le marchandiser, on ne doit pas le privatiser. Ça, c'est ce que nous, les tracteurs, disent souvent, c'est l'idéologie.
C'est l'idéologie.
Ouais. Bon. Mais dans l'autre sens, pour eux, ils ne sont pas idéologues. Quand ils sont 80% et privés, c'est un faux débat. Mais de manière pragmatique...
Oui, parce que ce n'est pas une lutte entre les idéologues et les non-idéologues.
Absolument.
Il y a des intérêts...
C'est un service public, mais qui est à caractère industriel et commercial depuis très longtemps, et qui a été délégué donc, à un nombre d'entreprises très réduites qui se sont partagées, il n'y a pas de concurrence, le marché. Donc face à ça, il reste quelques petites régies. Et donc, ce qui a vraiment fait prendre conscience, y compris à moi personnellement, qui était syndicaliste, CGT, on est pour le service public, mais on l'avait quand même très oublié à l'intérieur d'entreprises, on défendait l'emploi et les salaires. Et puis à un moment, on se dit, mais on est salarié, on est citoyen et on est usager. En plus, on est l'usager devenu client. Donc quelque part, ça doit nous interpeller. Et donc, c'est par la facture. D'abord, voilà. La première des choses qui concerne l'ensemble de vos auditeurs... Même si à Paris, il y a beaucoup de gens qui payent leur eau dans les charges, ça ne se voit pas. Mais d'une manière générale, on paye sa facture. Donc
c'est la première prise de conscience, finalement, c'est voilà. Par rapport à l'augmentation des prix.
Voilà. Et ça a vraiment augmenté dans les années 90, très fortement. Parce qu'avant, c'était indolore, si vous voulez. Bon, c'était peut-être l'équivalent aujourd'hui de 100 ou 200 euros à l'année. C'était pour la grande majorité de la population... Pour un foyer de deux adultes et deux enfants, une centaine d'euros par an.
Mais c'est toujours ça à peu près les coûts.
Aujourd'hui, c'est plutôt 500.
Aujourd'hui, c'est plutôt 500. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait que ça a augmenté alors?
Justement,
c'est un passage au prix.
C'est le passage, le passage en délégation. Parce que le passage en délégation, il est historique, ça fait très longtemps. Mais on a atteint un peu une apogée à peu près au début des années 90, c'est ce que vous disiez. Hein. À partir de là, ces entreprises se sont dit le marché est presque saturé, donc on va se faire de l'assainissement qui n'était pas saturé. Puis des déchets, et puis du transport, et puis du chauffage urbain. Voilà les secteurs d'activité environnementaux qui font l'objet de marchés publics passés pour des 10, 12, 15, 20 ans. Et donc ça rend, si vous voulez, des rentes absolument garanties à ces sociétés qui se disent, maintenant, comme il n'y a pas de concurrence, je suis seul, on va augmenter les prix. Mais on va augmenter les prix, non pas pour être des méchants, mais parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a des fuites. Parce que les canalisations sont mal entretenues. Sauf qu'ils oublient de dire que tout ça, c'est principalement leur responsabilité, puisque c'est les mêmes entreprises qui gèrent depuis des décennies. Mais ils ont essayé de faire passer par justement un matraquage médiatique que, en fin de compte, les élus devaient décider de l'augmentation, parce que ce sont les élus qui décident de l'augmentation, mais sur les conseils extrêmement précis des entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a l'opacité, c'est-à-dire qu'on ne comprend rien dans sa facture. Et alors quand vous cherchez au-delà de la facture, c'est-à-dire le contrat ou le rapport du délégataire qui est obligatoire depuis une quinzaine d'années, mais alors là, si vous n'êtes pas dans la partie, personne ne comprend rien. C'est fait exprès pour vous embrouiller, pour vous complexifier, de telle façon que personne ne pose des questions. Ça, c'est la première. Mais ensuite, il y a le côté environnemental qui est arrivé. C'est-à-dire que, et c'est ça, à mon avis, qui a fait que l'affaire de Grenoble, qui est restée l'affaire de Grenoble, a pris une dimension beaucoup plus importante, parce que derrière... Quand vous gérez mal, quand vous entretenez à minima les canalisations, elles vieillissent. Donc, si elles vieillissent, avant de casser, elles fuient. La qualité de l'eau s'en ressent. Hein. Et donc, il y a des investissements à faire. Les investissements, c'est toujours l'usager, la municipalité, qui paye. Donc, vous payez une délégation qui fait mal son travail. Et en plus, vous repayez une deuxième fois parce qu'elle a fait mal son travail.
D'accord.
Donc, tout ça a fait une augmentation de la facture. Un problème de ressources, parce que la ressource... qui était de plus en plus polluée, nécessitait des investissements de plus en plus colossaux pour la rendre potable. Et en plus, les gens consommaient. Et c'était un marché captifs. Donc, les prix augmentaient. Et puis, d'un seul coup, on arrive au début des années 2000. Les affaires avec les partis politiques qui étaient financés par ces entreprises, l'affaire de Grenoble, le problème de la pollution, les problèmes environnementaux qui ont commencé à monter dans la population, a fait que là, les élus se sont comme dit, il faut y regarder de plus près. Donc Bertrand Delaunay a été un des premiers à demander un audit lorsqu'il est arrivé à la mairie de Paris sur la gestion de l'eau. Bon, il l'a eu au bout d'un an et demi, et l'audit était quand même absolument catastrophique. C'est-à-dire que toutes les enquêtes qui étaient menées par la Chambre régionale des comptes ou l'UFC Que Choisir qui fait un excellent travail...
C'est un audit sur la qualité de l'eau ou c'est un audit sur
les deux. C'est-à-dire d'abord sur la gestion technique et financière, mais aussi sur cette mauvaise gestion entraîne des travaux, du fait que la qualité de l'eau se ressort, des travaux pour améliorer la qualité de l'eau. Donc tout ça, si vous voulez, le côté environnemental, le côté gestion comptable financière, tout ça se regroupait. Et donc il y a une prise de conscience... à la fois des élus, à Paris c'est le cas, et puis de manière générale des associations qui se sont regroupées par département, par région, qui combattaient localement, qui ont commencé à faire des procès, qui ont commencé à poser des questions aux élus. Bon, d'où ensuite un certain nombre de personnes, dont Marc Lémé, Ivan Stefanovic, qui sont tous du coin, d'ailleurs, sur le 19e arrondissement, et puis moi, on a écrit des livres pour essayer d'expliciter au grand public où étaient les arnaques. Hein, c'est un système mafieux, la gestion de l'eau. Et donc, derrière, un certain nombre d'élus de gauche ont commencé à se poser des questions, des députés, des sénateurs, plutôt les députés verts et quelques députés communistes, puis après quelques députés socialistes. Ça a commencé. L'UFC Que Choisir a fait une première en 2007, une enquête, une deuxième enquête en 2008, une troisième enquête. Bon, ça a vraiment monté. Les problèmes environnementaux avec le réchauffement de la planète, réchauffement du climat, etc. Tout ça a fait que... ben, globalement, il y a une prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait avec Mme Mitterrand et plein d'autres associations des conférences, ben, les questions qui nous sont posées, d'abord, il y a de plus en plus de public, il y a de plus en plus d'élus, parce que la plupart ne sont pas corrompus, la plupart sont complètement ignares dans cette affaire-là, a fait qu'il y a un rapport de force qui a changé, donc des retours aux régies qui ont été réalisés avec des résultats. Et ce que je dis souvent, c'est que lorsque les communes, en 2002, 2003, 2004, pour les premières, sont revenues en régie, elles sont toujours en régie. Alors qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de durée, c'est une durée illimitée. Donc vous pouvez arrêter quand vous voulez. Alors que dans un contrat de délégation, c'est 10, 15, 20 ans. Or, toutes les régies qui sont revenues, donc toutes celles qui sont revenues en régie, n'ont jamais tenté de revenir en délégation. D'accord. Donc c'est quand même avec des résultats de baisse de prix, d'amélioration des fuites, d'investissement, de transparence, puisque dans les régies, on met les associations pour vérifier.
Donc, quand on parle de remunicipalisation, on parle de régie, en l'occurrence ?
Oui, alors, les termes, après, c'est le retour à un service public géré par la collectivité. Mais ce n'est pas le système d'avant 1926, où il y avait un statut, si vous voulez, c'est les fonctionnaires de la ville qui assuraient. Aujourd'hui, tout ce qui est après 1926, ce n'est plus les fonctionnaires directement. Lorsque vous êtes passé de régie en délégation, vous revenez en régie, vous reprenez les salariés qui ont la compétence. Ceux qui ont la compétence aujourd'hui, ce sont les salariés de Veolia, de Suez et de la SOR qui sont repris, comme d'ailleurs n'importe quelle entreprise privée qui est rachetée par une autre, les salariés, leurs contrats de travail se poursuivent.
D'accord.
C'est exactement le même.
C'est les mêmes personnes qui travaillent.
C'est les mêmes personnes.
Parce que la terminologie du droit administratif est quand même compliquée.
Voilà. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot remunicipalisation. Mais en fin de compte, ça a toujours été municipal. Sauf qu'il y a eu une délégation du service municipal de l'eau à une entreprise privée.
Oui, et si j'ai bien compris, alors je vais faire un petit peu le novice, mais bon, ça fait quelques semaines que je m'intègre de ce sujet. Si j'ai bien compris, dans ce marché, il y a trois acteurs, finalement. Il y a le citoyen, il y a l'élu, et il y a ces multinationales. Donc,
absolument.
Voilà. Bon, à un moment donné, cette eau a été par le passé de la gestion publique, et à un moment donné, ces multinationales, voyant la manne financière que ça représente, mettent la pression aux élus pour dire, voilà, nous, on peut s'occuper à votre place de l'eau. Et en échange, vous aurez toutes sortes de services et vous aurez une sorte de gain à court terme. On va vous construire un palais des congrès, c'est des choses comme ça. En fait, je parle un peu vulgairement.
Mais c'est pas vulgaire, c'est complètement ça.
Vous aurez des droits d'entrée, notamment, qui sont des droits d'entrée. C'est-à-dire que vous allez toucher de l'argent concrètement. La commune va toucher de l'argent directement parce que ça, c'est légal, par exemple.
C'était légal jusqu'en 95. C'est-à-dire que... et puis avant la loi Sapin 93, avant c'était un marché de gré à gré.
Voilà. D'accord.
Un élu disait, enfin un maire disait, je vais prendre cette entreprise, je ne fais pas d'appel d'offres, il n'y a aucune transparence, il me demande tel prix, j'accepte, moyennant un contrat de longue durée et moyennant, si vous trouvez en Bretagne, ça sera un sponsoring lié à la voile, par exemple. Si vous êtes en montagne, ça sera plutôt une patinoire ou des pistes de ski. Et puis si vous êtes en plaine, ça sera plutôt un stade de foot, d'accord, comme à Lille ou un palais des congrès à Montpellier. Voilà,
donc,
c'est...
D'accord. Donc l'élu se dit, bah voilà, moi je suis en position, j'ai un déficit public, j'ai un déficit par exemple dans ma municipalité. Là, le fait de céder ce contrat, ça va me permettre de rééquilibrer ce déficit. Donc ça augmente les chances d'être élu, concrètement parlant. J'aurai un sujet en moins à m'occuper, qui est sans doute un sujet pas
absolument,
évident.
Absolument.
Et puis voilà.
Enfin, mais il y a une chose que vous avez oubliée, c'est qui rembourse
voilà.
Hein, parce que effectivement, l'entreprise n'est pas une entreprise philanthropique, elle donne pas de l'argent. En disant, je vous donne de l'argent et puis vous donnez un contrat de 20 ans. Non, c'est quand même pas exactement comme ça. C'est, je vous prête de l'argent, vous donnez un contrat de 20 ans, mais je récupérerai la mise que je vous donne par l'augmentation du prix de l'eau pendant toute la durée du contrat, plus avec des intérêts, évidemment, pour que, en fin de compte, ça me rapporte même plus. C'est-à-dire que le prêt qui est fait, qui est un prêt de banquier, c'est les banquiers qui ont créé la première société d'eau, qui a été la Compagnie Générale des Eaux en 1853. 9 banquiers d'Empire. Ils ont tout de suite compris que ça allait rapporter gros. On prête de l'argent, on a un contrat de 20 ans en moyenne, et en plus, ce prêt, il est remboursé par les usagers qui sont devenus des clients des vaches à lait,
voilà, et
qui remboursent sans le savoir.
Et qui ne regardent pas la facture.
Ben non, parce que comme c'était... C'est vrai qu'au départ, le prix de l'eau est assez... D'abord, l'eau est gratuite. C'est le service d'amener de l'eau qui est payant, mais qui est souvent payé par les collectivités et qui était payé à l'époque par les impôts. Donc après, c'est simplement le service de l'eau, voilà, la facturation. Ben, effectivement... Au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, pour les contrôler, ces élus, parce qu'il ne suffit pas d'avoir le contrat une fois. Le record de France, c'est à Nice. Ça fait depuis 1864, sans discontinuité, que la Générale des Eaux, devenue Vivendi puis Veolia, a le contrat. À Rennes, ça fait 130 ans que Veolia a le contrat. En Île-de-France, on est à 88 ans et on va arriver à 100 ans, puisqu'ils en ont signé pour 12 ans. Encore que là, si on en parle pas loin de chez vous, à Est-Ensemble, donc juste de l'autre côté du périphérique, il y a des gens qui résistent. Et peut-être que ça va mettre du plomb dans l'aile, mais le contrat risque d'être signé jusqu'en 2022. C'est-à-dire que ça fera pile 100 ans si le contrat est véritablement appliqué dès l'année prochaine. Alors, c'est pas possible. Où il y a 3 entreprises leaders mondiales dans le domaine, c'est bizarre. La même société a le contrat d'Île-de-France. À Rennes, c'est la même. À Bordeaux, c'est la Lyonnaise des Eaux Suez depuis des décennies. Ils se partagent le marché.
D'accord.
Mais alors, les contrats n'ont aucun élu sur ils contractent ce contrat. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus aucun contrôle sur les agissements des entreprises. Comment ça marche,
ça, en fait, c'est une bonne question parce que vos auditeurs, je dis, mais attendez, ils signent un contrat. Le maire signe un contrat avec une société privée.
Ils peuvent surveiller.
Mais imaginez-vous que c'est un service public qu'on délègue au privé. On le paye, ce service. Enfin, donc là, c'est les usagers. On va payer les fonctionnaires à contrôler le travail que ne ferait pas la société privée ? Ben, ils ne contrôlent pas. Le seul qui contrôle, ce serait le préfet, a posteriori. Or, le préfet, mais vous imaginez le nombre de contrats qu'il y a ? Il y a plus de 15 000 contrats en France.
Donc c'est,
c'est impossible à contrôler.
En vertu la Cour
de
des
quoi,
comptes,
ce serait le préfet ? Pardon, en vertu de quoi ce serait le préfet ?
Enfin, c'est le contrôle de l'égalité. C'est pas, ils ne contrôlent pas. C'est le contrôle de l'égalité a posteriori. Mais en amont, eh ben, c'est le maire ou le président de l'agglomération qui délègue, qui présente le contrat, qui souvent, pour des raisons de solidarité de la majorité municipale, eh ben, c'est validé, c'est voté, c'est signé, et on part pour 12, 15, 20 ans.
D'accord.
Mais là, juste pour vous donner un exemple, mais grâce à cet exemple, d'ailleurs, les choses évoluent aussi, c'est le contrat d'Olivet, une petite commune d'à côté d'Orléans. C'est un contrat qui a été signé en 1933, pour 99 ans, jusqu'en 2032.
D'accord.
Et c'est bon. Ça existe.
D'accord.
Et ben une petite association de 5 retraités ont quand même, devant le Conseil d'État, gagné en avril 2009 pour dire que la durée des contrats ne peut pas excéder 20 ans, avec un effet rétroactif, ce qui est quand même assez rare, à partir du 4 février 1995, qui était la dernière loi sur l'eau, liée d'accord, justement à ces problèmes de droit d'entrée, etc. Donc ces contrats de 2032, ou pour Bordeaux, ou pour Toulouse, 2020-2022, vont être amenés à début 2015. Or, ça, c'est extrêmement important pour vos auditeurs, c'est que lorsqu'un contrat se termine début 2015, il faut décider du futur mode de gestion au minimum un an avant. Or, un an avant, on sera avant les municipales de 2014.
D'accord.
Et donc, c'est les conseils municipaux d'aujourd'hui, qui ont été élus en 2008, qui vont avoir décidé, pour les 3/4 des contrats qui viennent à échéance maintenant, Alors, juste dernière question que je me pose. Pourquoi les contrats se terminent les trois quarts maintenant ?
Parce que j'avais demandé.
Parce qu'en 1993, exactement le 29 janvier 1993, il y a une certaine loi Sapin contre la corruption dans les marchés publics et pour la transparence qui a été votée, ce qui a obligé les marchés, les appels d'offres. Bon. Et donc, ces entreprises ont anticipé, avec la complicité des élus des grandes villes, et au deuxième semestre 92, 75% des contrats ont vu leur durée de contrat initial prorogée d'une dizaine d'années. C'est pour ça qu'on les retrouve tous
entre eux. Ils sont forts quand même.
Oui, mais enfin, les élus, quand même, il y a une certaine responsabilité. Oui. Il y a une partie, ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas vu, je veux bien. Enfin, les grandes villes, que ce soit en Île-de-France, enfin, comme le syndicat des eaux d'Île-de-France présidé par Santini, qui est président depuis 83, on ne peut pas dire qu'il n'est pas compétent, ce monsieur. Hein. Bon, il cumule beaucoup, mais il est compétent. Le maire de Rennes, il est compétent. Bon, le monsieur Fraîche, ça, c'est peut-être un peu autre chose. À Marseille, on peut se poser des questions. On a bon. Mais partout, ça bouge. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la toute dernière période du fait qu'il y ait les retours en régie? Bizarrement, les entreprises baissent le prix de l'eau entre 20 et 40%.
D'accord.
Mais je ne comprends pas qu'à l'époque, en 1995, les élus n'aient pas été plus vigilants. Il y a eu l'affaire Carignan, quand même.
Oui, c'est exactement... on est en plein affaire Carignan. Ben oui, mais... ben non, ils n'ont pas été... c'est quand même la loi Barnier-Mazeaux qui a été prise. Donc des lois votées par des gens de droite qui a, avec la loi Sapin deux ans avant, ont permis de réguler un peu. Mais le droit d'entrée que vous me parlez,
oui.
Il a été supprimé en 1995, mais six mois après, il a été remplacé par exactement la même chose qui s'appelle la redevance d'occupation du domaine public. Ça ressemble étrangement au droit d'entrée.
D'accord.
Alors, merci.
Voilà. Donc on peut toujours s'arranger.
On a commencé à parler des villes, enfin, en tout cas de Grenoble par exemple, où il y avait eu des problèmes. Dans une deuxième partie, je crois qu'on va développer davantage, Alexandre.
Oui, mais on va faire une petite pause musicale avant de... Voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris autour de la table déjà la première partie de l'émission? C'est bon, c'est clair pour tout le monde. On va faire une première pause musicale avec un invité que je suis très heureux de recevoir, qui s'appelle Élie Guilloux, que j'ai eu la chance de rencontrer à Moulins. On a partagé une scène au mois d'avril dernier, si je me souviens bien, ou mars, enfin à peu près. Élie, vous êtes d'origine bretonne et vous vivez à Paris. Et vous avez notamment, alors je ne sais pas, on se tutoie peut-être d'ailleurs, on se tutoie. Tu as fait un projet assez intéressant en 2009, le Paris-Brest, c'était en 2009 ?
Oui,
en mai. Assez original, puisque Élie, il a marché de Paris à Brest. Oui, je vais lui donner un micro, parce qu'on est limité en micro. Voilà. Il a marché pendant 30 jours entre Paris et Brest, et chaque soir, tu t'es arrêté pour donner un conseil.
Voilà.
En gros, c'était ça le principe.
C'était ça. C'était.
Alors, il y a des vidéos qui ont été faites aussi à cette époque.
Une par jour.
Une par jour. Tu as joué dans des lieux tout à fait improbables, des cabines téléphoniques, des écoles, des choses comme ça.
Tout ça, des champs, des piscines, des maisons de retraite, chez des gens, sur des balcons, dans des salles de spectacle, des vrais, dans des bars, voilà, un peu tout. Chanteur tout terrain.
D'accord. Bon, alors on va t'écouter, tu vas nous jouer deux morceaux, enfin un premier là en acoustique, hein, dans notre petit et modeste studio. Donc,
avec
tu vas nous interpréter quoi comme chanson ?
Eh bien, j'avais pas du tout prévu ça, mais du coup, en écoutant l'invité, je vais interpréter une chanson de Gaston Couté, qui est un poète beauceron du début du XXe siècle. Et il a une chanson très jolie où il raconte qu'il était venu pour faire carrière sur Paris. Et à un moment donné, il a pété un câble et il est rentré chez sa maman dans la Beauce. Et c'est une chanson symbolique sur le fait de revenir vers quelque chose de plus simple et de plus pur. Et quand il arrive chez lui, sa mère est en train de faire la lessive. Et lui qui s'est souillé à Paris, il va se laver un petit peu.
D'accord, bah merci. Alors on écoute donc Élie Guilloux.
Donc c'est « Jour de lessive » de Gaston Couté. Pris comme des cœurs morts suprêmes, crachant mes adieux à Paris. Et me voici ma bonne femme, ouais, foutu comme quatre sous, mon linge est sale, aussi mon âme, et me voilà chez nous. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Voici ce linge où goûte ta mainte et maintes fois un vin amer, où des garces aux lèvres peintes ont torché leur bouche d'enfer. Et voici mon âme plus grise, des mêmes souillures, hélas, que le plastron de ma chemise grise. Ma pauvre mère est en lessive, maman, 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 ton mauvais gars arrive au bon moment. Et lorsque tu viendras étendre ton linge d'iris parfumé, blanc parmi la blancheur tendre de la haie où fleurit le mai, je veux voir mon âme encore pure en dépit de son long sommeil, dans la douleur et dans l'ordure, revivre au soleil. Ma pauvre mère est en lessive, maman, maman, ton mauvais gars arrive au bon moment, au bon moment, au bon moment.
Merci Ellie, super. Bon, bah génial. On continue à parler de l'eau un peu ?
Oui, et on pourrait parler de l'eau au travers du film Water Makes Money, donc qui est un petit peu l'actualité de l'eau en ce moment. Vous avez participé à ce film. Donc c'est un film réquisitoire contre les multinationales de l'eau. Vous y avez participé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? Il suscite des réactions très diverses.
Moi, je l'ai vu déjà 6 fois, parce que comme on est invité pour faire des débats après les films, donc c'est normal que je sois là dans la salle. Et plus je le vois et plus je le trouve bien. Pour la cause, hein, évidemment, parce que après, je suis pas objectif, je suis complètement dedans, mais je trouve que pour sensibiliser la population, c'est exact. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je trouve que ça correspond tout à fait au message qu'on voulait faire passer.
Alors, en l'occurrence, moi, je suis peut-être la seule dans le studio à pas l'avoir vu. Si on devait le décrire en quelques mots, il y a Ellie aussi qui me fait signe. Qu'on en dirait ?
C'est un film qui est pas beaucoup diffusé, quand même, faut expliquer ça. Donc, il est diffusé dans les salles un peu associatives.
Aujourd'hui, à peu près, c'est 120 salles en France. Dans les 120 salles, il y a un tiers qui l'a passé 2 ou 3 fois déjà. À peu près dans 150 salles en Europe, principalement en Belgique, en Allemagne, surtout en Allemagne d'ailleurs, parce que le film est allemand quand même, hein, et en Italie. Et puis dans une vingtaine de salles aux États-Unis, une vingtaine de salles au Canada. D'accord. Là, un petit peu. Pour le résumer, c'est un petit peu décrire... comment on en est arrivé à ce système de gestion mafieuse de l'eau. En France, 75% du film se passe en France. Il y a une autre partie qui se passe en Allemagne, surtout avec deux villes complètement contraires. Une qui est restée en gestion publique et avec une protection des captages, une protection de la ressource, donc avec une agriculture bio. Et l'autre côté, une ville d'Allemagne de l'Est qui a tout privatisé, mais alors absolument tout, et qui se retrouve dans une merde noire.
Oui.
Parce que, bon, voilà.
Parce qu'on voit le maire de cette ville qui a l'air de regretter amèrement cette décision.
Voilà. Et juste pour vous dire, ils avaient déjà fait un film sur la gestion de l'eau en Allemagne. C'est comme ça que je les avais connus en 2006.
D'accord.
Et je leur avais dit, écoutez, si vous êtes capable de faire ce que vous avez fait en Allemagne, si vous pouviez le faire en France, parce qu'il n'y a aucun réalisateur français qui ose le faire, parce que la publicité à la télévision, c'est tellement Veolia et Suez que vous n'y arriverez pas. Donc, ils l'ont fait. Ce n'est pas une souscription, je tiens à le dire. Près de 125 000 euros a été obtenu par une souscription placée en Allemagne et sur le public en Allemagne et en France.
Il a été autofinancé, c'est ça,
Complètement.
Par des individus.
Voilà. Et donc, on a été trois personnes, principalement, en France, à leur faire visiter, en l'occurrence, Marc Lémé, et puis un coproducteur qui est membre de la fondation, il s'appelle Achille du Genestou, et qui, donc, qui parle anglais couramment, etc. Donc, on les a fait voyager, on a fait faire 3 ou 4 fois le tour de France. Et donc, ils ont retenu, c'est l'objet du film, c'est retenir à peu près 15 de villes où comment ça s'est passé. Et puis, donc, c'est un film qui n'est pas... C'est pas simplement des militants qui parlent, il y a des élus qui parlent, il y a des belles images aussi. On voit comment aussi, à Paris...
Il y a même des personnes de Veolia qui sont interviewées.
Il y a des personnes
du développement, si je me souviens bien.
Surtout de Suez. Très mignonne, assez mignonne, mais...
C'est mignonne.
Mais pas très bonne, je pense.
Un poil langue de bois, quand même.
Oui, c'est...
Mais bon.
Bon, donc c'est un film à charge, mais le hasard du calendrier a fait que il y a quelques jours, sur France 3, mais à 10:30, est passé un autre film dans lequel il y a à peu près les mêmes acteurs, mais résumé sur 3 villes. Neuchâtel, qui est une petite ville d'Alsace, 8000 habitants. Lille, qui n'a pas été traité dans l'autre film, et Paris, qui a aussi été traité. Mais on voit, c'est un film qui a été fait sur aussi une longue période, on voit avant, après, les résultats, etc. Mais je pense que ce qu'il en ressort...
C'est un film un peu objectif aussi
C'est un film à charge, je ne peux pas dire le contraire. C'est un film vraiment à charge. Bah, le problème, c'est que c'est le seul film à charge. Tous les autres films sont plutôt en leur faveur. Donc quand même, il est normal, en démocratie, qu'on n'ait pas forcément le même point de vue. Mais on a essayé de les interroger, ils apparaissent un tout petit peu. Bon, mais ils n'avaient pas grand-chose à dire, en tout cas.
Et du coup, on dirait que c'est un film qui est militant, parce que justement,
non,
il est à charge.
Non, je dirais ça plutôt comme un documentaire. Parce que pour moi, le moment le plus fort, mais je crois que ça est partagé par beaucoup de gens qui l'ont vu, c'est au moment, vers plutôt la moitié du film... On voit par une porte, une sorte de sas où il y a des gens qui rentrent, des gens politiques qui rentrent dans la société, et puis des gens de la société qui repassent dans le monde politique. Ça fait la.
Oui, oui, oui. C'est un peu le seul graphique qu'on a du film. C'est un peu ce que j'ai regretté, moi. C'est qu'on n'ait pas un peu plus d'infographie pour expliquer clairement ce problème. C'est quand même.
C'est
basé,
compliqué. Oui, oui.
C'est à base d'interview.
Alors,
c'est vrai que ce passage-là où on voit.
C'est le moment fort, je pense. Il y a un autre passage, mais je pense.
Pour l'expliquer clairement, ce moment-là, ça explique très simplement que les élus. Ils jouent le jeu de ces compagnies, c'est-à-dire qu'ils leur confient ces marchés publics de l'eau en échange de droits d'entrée, de patinoires, comme lui, de piscines, etc. Et que si par hasard ça ne marche pas parce qu'ils ne seraient pas réélus à la prochaine élection, de toute façon, ils sont embauchés chez Veolia ou chez Suez Environnement. Et on voit dans ce diagramme qu'effectivement, la plupart des hommes politiques qui nous gouvernent aujourd'hui sont passés à un moment donné de leur carrière dans ces sociétés-là.
Voilà. Notamment Éric Besson, qui est vraiment le cas.
Notamment Éric Besson, mais on voit Dominique
de Villepin. Mais il y en a bien d'autres, absolument.
Ce n'est pas que des extrêmes, quoi, entre guillemets.
Alors, la difficulté pour un film comme ça, c'est d'abord les images, pour pas que ça soit un film que d'interview, avec, ça c'est la grosse difficulté. Et deuxièmement, la complexité du système. Là, on a le temps, on arrive à parler. On ne peut pas me filmer pendant 20 minutes pour expliquer comment ce système est né, comment ce système s'est développé, quelles relations les élus, le pantouflage avec les élus qui ne sont pas réélus, qui deviennent chargés de mission. Et puis, c'est long à expliquer. Et
c'est
pas évident.
Donc, ça vaudrait peut-être le coup, justement, de vraiment...
Je pense que... En tout cas, moi, je suis venu vous voir et j'ai participé au film, et j'en participerai aussi à d'autres, parce qu'il y en a un autre qui se prépare aussi, parce que je pense qu'il faut être pédagogue dans cette histoire-là. Mais qu'on ne peut pas se dire en une émission, ou la télévision, en 3 minutes, vous êtes interrogé, c'est impossible. Un film comme ça, vous ne montrez qu'une partie des choses.
Oui, oui.
Vous ne pouvez pas tout montrer. Le problème de la qualité est abordé, mais c'est quand même c'est réduit, c'est trop réducteur. Le rôle des agences de l'eau, le niveau international, c'est évoqué, mais c'est très rapide. Comment ces sociétés ont pu pénétrer le marché d'abord sud-américain, puis un peu américain, puis africain, puis maintenant asiatique? Par quels moyens, puisque ces pays sont pauvres, sont endettés? Comment la Banque mondiale a prêté de l'argent, conditionnant une augmentation de prix, la privatisation de la gestion?
Oui, ça, bon, c'est...
Tout ça. Et qui est derrière le président de la Banque mondiale? Derrière le président de la Banque mondiale, il y a un conseiller spécial qui se trouve être Jérôme Monod, qui était président de Suez et secrétaire général du RPR et conseiller spécial de Jacques Chirac. Mais c'est pas très compliqué.
Quand on rentre dans le sujet,
il faut rentrer dans le...
Donc on se rend compte effectivement que les
gens...
C'est une toile d'araignée, etc. Et il y a quelque chose qui m'a pas mal marqué dans le film par rapport à l'international, justement, c'est que cette hausse des prix, qui est encore pas trop sensible, parce qu'on parle de sommes finalement petits sur les budgets annuels, même s'ils ont augmenté, cette hausse de prix dans des pays en voie de développement,
c'est
une catastrophe.
Voilà.
Parce que les gens n'ont juste plus les moyens de consommer et de boire de l'eau, enfin d'acheter de l'eau.
C'est
comme ça
qui
se passe. C'est-à-dire que nous, ça passe de 100 à 300 euros par an. Bon,
ouais.
À la limite, ça passe et puis on s'en rend pas trop compte dans les facteurs de charge. Mais pour des pays où c'est des sommes importantes, c'est catastrophique.
Je pense que d'ailleurs, c'est, à mon avis, c'est là leur échec. C'est qu'ils ont pensé, une fois qu'ils ont contrôlé toute la France, une partie de l'Europe, l'eau, l'assainissement, les déchets, le transport, ils se sont dit, bon, maintenant, c'est l'international. C'est souvent l'exportation. Hein, on va y aller. En plus, on est né par la Banque mondiale, le FMI, dont à un moment le président était Michel Camdessus, qui se trouve être aujourd'hui secrétaire général de la Fondation Chirac, enfin bon, etc. Ils se sont dit, bon, il faut développer ce système, mais vraiment à l'infini. Le problème, c'est que ces pays sont tellement pauvres, si vous augmentez un tout petit peu l'eau, et les augmentations étaient de 80-500% dans les pays d'Amérique du Sud, il y a eu des rébellions. Deux chefs d'État en Bolivie ont été remplacés en grande partie à cause de ce problème-là. Bon, donc on a chassé les entreprises françaises, bon, même si elles sont protégées par des systèmes juridiques internationaux, mais voilà, elles ont été chassées. En Afrique, il y a une telle corruption, les gens sont tellement pauvres que ce n'est pas un marché porteur, donc ils se sont concentrés sur l'Europe et les États-Unis, mais malheureusement, les États-Unis, pays extrêmement capitaliste et libéral, ils ne veulent pas des entreprises privées dans le domaine de l'eau.
Oui, ça c'est tout à fait paradoxal.
Française ou autre.
En France, on a beaucoup plus privatisé notre eau qu'aux États-Unis.
Ah ben c'est le pays le plus privatisé. Bon, y a deux pays qui ont privatisé la ressource aussi. C'est le Chili qui est en train de revenir et l'Angleterre qui, j'espère, va revenir. Mais c'est Madame Thatcher, c'était un peu un cas particulier.
Et l'Italie, non, l'Italie sont...
Non, l'Italie, c'est tout récent.
C'est tout récent.
L'Espagne, c'est un peu moins récent, mais ça date d'il y a quelques années. Et ils n'en sont pas au même stade que nous. Nous, c'est 80% de la population. Le deuxième pays, c'est l'Espagne, où ils sont à 45%.
80% de la population qui
est donc... sous la coupe de trois sociétés privées. Voilà. Donc c'est vraiment un cas particulier. Mais ça s'est développé dans toutes les grandes capitales du monde. Donc, déjà pas dans les campagnes, c'est pas porteur. Il faut que ça soit des grosses concentrations urbaines, pour que ça soit rentable. Et donc, ils avaient besoin justement que... Même le système du droit d'entrée. Sauf que le droit d'entrée, c'est pas... la société qui prête de l'argent, c'est la Banque mondiale qui prête de l'argent et ensuite qui est remboursée à partir de la facture. Donc c'est à peu près le même principe.
Oui, c'est le même principe.
Sauf que ce n'est pas exactement le même intermédiaire, mais ça revient au même. Et le problème, c'est qu'en face d'eux, ils n'ont pas des gens, comme vous avez dit, ce n'est pas 100 à 300 euros, mais peut-être qu'ils gagnent 300 euros dans l'année. Et que donc, possible.
Oui.
Et donc, il y a eu des rébellions. Donc en Amérique du Sud, en plus, ils sont peut-être plus chauds, plus latins, plus déterminés à réagir plus rapidement que nous, parce que nous, les Français, on réagit quand même, on a du mal à réagir. C'est-à-dire qu'on ne fera pas une manifestation comme en Italie, en Espagne, ou en Bolivie, ou en Argentine. On a déjà fait quelques manifestations, on arrive à quelques petites centaines de personnes. Enfin, la dernière tentative, elle remonte déjà à 5 ans. Je pense que maintenant, je pense que ça serait un peu différent. Mais si on avait 1000 personnes, on serait super content. Ça ne suffit pas. Parce que c'est un problème tellement localisé, tellement ressenti. Il y a pratiquement 35 000 prix pour 35 000 communes, grosso modo, avec des situations toutes différentes les unes des autres, parfois incompréhensibles. Si vous habitez le 15e arrondissement, vous traversez le périphérique, vous arrivez à Issy-les-Moulineaux, je ne prends pas l'exemple au hasard, vous payez 75% plus cher votre eau.
À Issy-les-Moulineaux ?
Oui, à Issy-les-Moulineaux, dont le président et le maire, etc. Hein, Santini, donc. Mais il n'y a pas qu'Issy-les-Moulineaux, c'est toutes les communes de la banlieue. Et pourtant, l'eau de la banlieue vient souvent de plus près que l'eau de Paris, qui vient pour une partie de Dreux, une partie du Morvan, une partie de Sens, etc. Donc c'est ce qui coûte cher, c'est le transport. Alors, la seule raison qu'on nous explique avec difficulté, c'est que l'eau en Île-de-France est chère parce qu'elle serait beaucoup plus polluée. Sauf que comme l'eau de Paris vient de plus loin, qu'elle traverse aussi ces terrains-là, on ne comprend pas bien la question de la pollution.
Mais un des arguments justement des entreprises de l'eau qui sont sur Paris, c'est de dire que le prix de l'eau à Paris est un des moins chers de France, en fait.
C'est vrai, il a toujours été un des moins chers, même s'il a beaucoup augmenté pendant la privatisation. Il est pratiquement aujourd'hui légèrement en dessous de la moyenne nationale. C'était quand même un des plus faibles avant, donc il y a quand même une grosse progression.
Alors justement, est-ce qu'elles font des efforts, ces multinationales, suite à cette perte de sensibilisation un peu? Est-ce que vous avez remarqué depuis des années qu'elles ont baissé les prix? Alors, qu'elles font un effort sur la qualité? Est-ce qu'il y a des changements quand même, de leur côté?
Les changements n'ont pas été immédiats. C'est-à-dire que l'affaire de Grenoble n'a pas engendré des baisses de prix derrière. Hein.
D'accord.
L'affaire de Paris, quand le premier audit en 2002 a été sorti, ça n'a pas engendré grand-chose non plus. Même si la ville de Paris a sommé un certain nombre de choses, mais ça n'a pas eu de répercussion nationale. C'est plutôt lorsque le débat est devenu public, donc en 2004, ça a commencé en 2005, puis les enquêtes de l'UCE que choisir. Donc moi, je dirais que vraiment, il y a eu des baisses de prix que depuis moins de 2 ans.
D'accord.
Hein, parce que là, il y a eu des retours en régie avec un laps de temps qui a permis de voir un peu. D'abord, ces régies ne se cassaient pas la figure, quand même la moindre des choses. Deuxièmement, que le prix, dans la trois quarts des cas, il y avait une baisse de 20-25%, donc c'était réel, c'était palpable. Troisièmement, les associations de consommateurs qui se battaient se retrouvent dans le conseil d'administration de la régie. Et puis, baisse de fuite, qui est quand même important, parce que les fuites, elles sont facturées. Donc autant quand même, on est pour l'économie de l'eau.
Ouais, hein, ouais. Elles sont facturées à qui, ces fuites, d'ailleurs? C'est un truc que je ne comprends pas, parce que nous, on paye l'eau à partir du compteur, normalement.
Parce que le prix de l'eau, si vous voulez, est calculé en amont.
En amont du compteur.
Suivant un volume prévisible. Donc, si vous voulez, tout ça est comptabilisé avant.
D'accord.
Hein? Donc, c'est vrai que, pour l'expliquer simplement, il y en a un qui pourrait le faire, qui est à Bordeaux, qui s'appelle Patrick Dufaux de la Motte, qui est expert comptable. Et c'est le seul expert comptable qui arrive à vous expliquer quelque chose d'extrêmement compliqué de manière très simple et compréhensible.
D'accord.
Donc, et pour vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup en face de gens qui complexifient encore plus pour que vous ne compreniez rien, que vous ne vous intéressez pas à ça. Ça, d'accord, c'est clair. Mais voilà, donc il y a eu des baisses de prix depuis 2 ans parce qu'il y a eu des résultats en régie qui ont fait que ces multinationales ont baissé le prix. Et le record de France de baisse du prix dans les 2 dernières années, c'est la ville d'Anglette qui se trouve à côté de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, où le maire de gauche qui a été élu suite aux élections municipales, qui a succédé à maire de droite, a fait un audit. Mais comme le maire de droite avait lancé la procédure d'appel d'offres, il était coincé. Donc tout ce qu'il pouvait faire, c'est négocier le meilleur prix. Mais on était dans un système privatisé.
Donc, moins de 10 ans.
D'accord.
Voilà, c'est éloigné. Mais ça a conduit la Lyonnaise des Eaux, qui avait le contrat, à garder le contrat, donc, mais avec une baisse du prix du mètre cube de 61% de baisse et l'abonnement de 20%. Donc on peut se poser la question, mais là on sait pourquoi. Il était coincé, le maire, nouveau. Comment on peut reprendre quelqu'un qui vous a arnaqué pendant des années à ce point-là? C'est ça la question qui se pose. Et donc cette question-là, parce qu'il y a eu d'autres exemples comme ceci, ça a fait que les associations, les communes qui sont revenues en régie, des gens comme la Fondation Madame Mitterrand, moi et d'autres, on a fait passer l'information. Et on a commencé à aussi faire aider les communes par des audits, je dirais, les plus faciles, enfin pas les plus faciles, mais faire des résumés rapides pour dire, voilà, écoutez, il y a un vrai problème. Et donc maintenant, les communes, les maires ne peuvent pas dire, on ne sait pas, ils savent.
Les maires sont au courant.
Sont au courant. Donc aujourd'hui, soit ils se disent, bon, moi je ne suis pas un idéologue et moi je préfère que ce soit une société privée, je ne vais pas m'en occuper, mais par contre, vous me baissez le prix de l'eau.
D'accord.
Et il baisse. Donc, sinon, je fais la régie.
Les maires, par exemple, des toutes petites communes qui ne sentent pas de courage de s'attaquer à ce dossier, ils peuvent au moins exprimer au moins faire cette pression-là, parce que c'est compliqué peut-être.
Non, mais je vais vous répondre là-dessus, c'est que les petites communes sont déjà en régie.
D'accord.
La plupart des communes qui sont en régie, donc les fameux 40% de communes qui représentent 20% des usagers, c'est les petites communes.
D'accord.
Okay. Bon, celles qui sont en délégation, souvent reviennent. Elles reviennent plus facilement. Et les multinationales ne sont pas très gênées. Ça ne fait pas beaucoup de clients. C'est les grandes villes. Les enjeux aujourd'hui, c'est Lille, c'est Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. Voilà les gros, gros enjeux.
Donc dans ces villes-là, ouais, il faut mettre la pression à ces élus.
C'est ce qu'on fait.
En gros.
Et alors, on a été aidés l'année dernière, et particulièrement au début d'année, parce que M. Sarkozy, Mme Joanneau, sur proposition de M. Godin, le maire de Marseille, a convaincu les organisateurs du Forum mondial de l'eau, qui a lieu tous les 3 ans et qui a lieu à Istanbul en 2009, qu'en mars 2012, ça aurait lieu à Marseille, à quelques jours des présidentielles. C'est un cadeau inespéré. Je le dis un peu ironiquement, mais sérieusement, c'est que ça nous a facilité la tâche, notamment vis-à-vis des partis de gauche qui étaient un petit peu frileux ou un petit peu sur la réserve. Ils ont bien compris que là, dans l'imaginaire, dans les références face à un gouvernement bling-bling, bah là, l'eau, c'est quand même une valeur assez... C'est facile à expliquer, quoi.
D'accord.
Et donc, d'un seul coup, on avait les partis de gauche qui se positionnent de manière très claire, avec des communes qui sont revenues en régie, comme dernièrement Montbéliard, avec Pierre Moscovici, qui n'est pas un révolutionnaire de première heure. À Brest, c'est pas tout à fait une régie, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et puis voilà. Et puis il y a des discussions. En Ile-de-France, je vous dis, c'est pas fini. Et donc, ce forum, qui est en fin de compte présidé par un haut cadre de Veolia, qui se trouve présider la Société des eaux de Marseille, le contrat de la Société des eaux de Marseille en termes d'eau et d'assainissement se termine fin 2012. Donc, double objectif, organiser un forum alternatif en mars 2012, en parallèle du forum officiel, hein, pour dire l'accès à l'eau des pays du Sud, l'accès pour, l'eau pour tous, c'est sûrement pas le secteur privé. Si on veut avoir la paix avec l'eau, et que l'eau soit un symbole de paix, non pas une source de guerre, eh ben, c'est sûrement pas ce Conseil mondial de l'eau qui est l'émanation des Veolia de Suez et de la Banque mondiale, sans une représentation de la société civile et des pays. Et donc, en même temps, ben, les Marseillais vont être, je pense, être intéressés à ce débat, parce qu'ils ont un prix de l'eau assez élevé, surtout les communes, en plus, c'est une communauté d'agglomération où les prix sont très différents d'une commune à une autre. Donc déjà, on ne comprend pas pourquoi ils sont en agglomération s'ils n'ont pas le même prix. Et donc, là, il y a un enjeu phénoménal. Mais à Marseille, en dehors que c'est la ville de Marseille, avec tout ce qu'on peut imaginer, on a un maire très connu, M. Godin, UMP. On a un président de conseil général qui est le premier secrétaire de la Fédération socialiste, M. Guérini, qui est assez connu aussi. On a le président de la région, très connu, Michel Vauzelle. Ces personnes n'étaient pas d'accord, même ceux qui étaient du même parti politique. Mais d'un seul coup, ceux qui étaient au Parti socialiste, ceux qui étaient à gauche, sont devenus, là, en l'espace de 3-4 mois, tous d'accord. Et donc, ils vont nous aider, et ainsi que l'ensemble des régions socialistes de France, enfin, socialistes des régions de gauche, vont nous aider à construire le forum alternatif pour dire, voilà, c'est un forum des citoyens, c'est un forum alternatif pour dire une autre gestion de l'eau est possible dans le monde, et ça commence par la France. Et donc là, c'est une erreur stratégique phénoménale d'avoir pris cet endroit pour faire ce forum.
D'accord. On va conclure. On avait plein de choses à raconter dans cette émission. On avait un reportage sur une association, on en parlera la prochaine fois. On avait la sortie du film, etc. Donc, pour aller plus loin sur le sujet, si ça intéresse nos auditeurs, il y a un film qui s'appelle Water Makes Money. Il y a un site qui parle de ça.
Voilà, on peut aller sur www.lamar.org pour organiser des projections et se renseigner sur la sortie du DVD.
Et ils habitent dans le 19e en plus, voilà. La mer au canard aussi.
Il y a le film, le livre, pardon, de Jean-Luc qui s'appelle L'eau de Vivendi, les vérités inavouables.
Et l'eau des multinationales.
L'eau des multinationales.
C'est le dernier chez Fajar.
Voilà. Sur notre site, on mettra zoomecologie.net, on mettra également des informations. On va faire une dernière pause musicale, mais c'est presque la fin. Donc on écoute Élie pour.
Une pause avec un breton et
avec un breton de l'eau qui connaît. Battez-vous à Brest si vous nous entendez.
Avis à tous les éleveurs de porc de la région de Plouneur-Ménez.
Voilà.
L'eau était dégueulasse. Mon papa disait toujours prendre les viands, prendre la montagne d'arrêt. Bon. Je marche d'un pas régulier, le regard posé sur le paysage. Les derniers rayons du soleil viennent s'allonger sur les blés. Une goutte de sueur gorgée de lumière vient me caresser le visage. J'ai perdu ma route il y a longtemps, et je ne veux pas la retrouver. I'm a long way from my home. I'm a long way from you. I'm a long way from my home. You could have come away with me. Un matin de mai, l'envie m'est venue d'abandonner tous mes bagages. J'ai brûlé ma boussole et j'ai marché sous le soleil halluciné. À chaque pas, j'ai vu la terre prendre une couleur rouge et sauvage. J'ai passé la frontière pendant la nuit et je ne l'ai jamais regretté. I'm a long way from my home. I'm a long way from you. I'm a long way from my home. You could have come away with me. I'm a long way from my home. I'm a long way from you. A long way from my home. You could have come away with me. Ce soir, je m'endormirai comme un roi dans un petit coin du bocage, blotti dans les branches d'un chêne comme dans les bras d'une fiancée. Tant que mes pieds voudront bien me porter, je continuerai mon voyage. Aujourd'hui, le temps n'a plus d'importance. Je suis mon propre berger. I'm a long way from my home. I'm a long way from you. A long way from my home. You could have come away with me.
Chante.
Ah, tu peux finir là-dessus.
Ah, merci Ellie.
I'm a long way from home.
From my home.
Alors, pour en savoir plus, tout à l'heure, on a pas donné le nom du site de Jean-Luc Souli.
De la Fondation France Liberté.
www.france-liberté, donc sans accent, .fr.
Et liberté avec un S. .fr.
Voilà, c'est tout bon.
Voilà, bah merci à tous d'être venus. On se retrouve dans un mois. Enfin, cette émission est toutes les semaines, mais nous, on se retrouve le troisième jeudi.
Alors, l'émission est juste rediffusée demain de 11h à midi. Et sinon, c'est la prochaine fois. Et on a été assez lent cette fois-là. Ouais. En même temps, c'est passé super vite. On parle de quoi la prochaine fois, Delphine ?
On parlera de lenteur, justement.
Éloge de la lenteur.
On aurait pu inviter Ellie pour parler de la lenteur aussi. Bon, merci à nos invités.
Et merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Et bonne soirée.
Dans l'une on vend de l'eau, dans l'autre on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde en revanche, où l'on vend du lait, lait. Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant: à qui les beaux le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau. Débit de lait si beau, débit de l'eau si lait. Si lait est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau bobby. Au débit de lait, il y a la belle babée. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le bobby et la babée sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait de babée. Mais on maudit le lent débit. Le lent débit des longs bidons du débit d'eau de bobby. Aussi babée ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de bobby. Et bobby lui répond en vidant les bidons. Les bidons d'eau sont des véalés dents. Oh, les bidons d'eau sont des véalés dents. Les bidons d'eau sont des véalés dents. Dans ma rue, y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Les v'là tous deux en ménage, le débido épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc et chacun dit en y allant, ah, qu'il est beau le Devidelay. Oh, quel palais le Devidelay. Devidelay si beau, Devidelay va palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau Devidelay. Bobby a mis du lait dans son eau et la Babé de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons, les Babé. Oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la Babé jolie. Et maintenant, si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Tous les bidons de lait de la maison. Ils se battent à coups de beaux bidons. C'est Bobby, c'est Babé, allez donc. Fidlididum, vadum, 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 papadum, ladum, dum.